Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Estival du local, votre quotidienne à retrouver eh bien, tout l'été sur l'autre radio. Une nouvelle semaine autour des animations et des initiatives en Mayenne et chaque lundi, rendez-vous est pris avec Christophe qui nous offre une jolie balade historique dans le département. Aujourd'hui, rendez-vous près du Genêt-Saint-Île. Bonjour Christophe.
Bonjour Marie. Cette semaine, après le sud du département, cap à l'ouest. Faisons halte à Clermont, entre Laval et Vitré. C'est là qu'en 1152, Guy V, baron de Laval, décida de fonder une des plus belles abbayes de la Mayenne. Guy V est le sixième représentant d'une dynastie qui s'est installée sur les bords de la Mayenne, à Laval, depuis la première moitié du XIe siècle. En un peu plus de 100 ans, les seigneurs de Laval, à partir de leur château, ont réussi à se tailler progressivement un territoire important, face aux barons de Vitré et de Mayenne, à l'ouest et au nord, et aux vicomtes du Maine, à l'est. Au sud, les barons de Laval sont tenus par leurs liens de vassalité à l'égard des puissants comtes d'Anjou, rappelez-vous, Foulque, Nérat et Château-Gontier. Cependant, et Guy V n'est pas le dernier, les seigneurs de Laval cherchent à accroître leur autonomie. Et fonder une abbaye, c'est prestigieux, cela pose son seigneur dans le paysage. De plus, Guy V ne fait pas appel à n'importe qui pour s'occuper du nouvel établissement. Il fait appel à des moines cisterciens. Cisterciens qui vient de Citeaux, un village de Bourgogne, où à la fin du XIe siècle a été fondée une abbaye avec des règles de fonctionnement strictes qui ne laissent pas de place à ce que l'Église peut considérer comme de la perversion ou de la corruption. L'abbaye mère de Citeaux donne naissance à quatre abbayes filles, dont celle de Clairvaux, toujours en Bourgogne, fondée par un certain Bernard de Clairvaux, figure éminente du christianisme de l'époque, prêcheur de la deuxième croisade. Eh bien, ce sont des moines de Clairvaux qui viennent à Clermont, Clermont-Clairvaux, la filiation est dans le nom. Le lieu de fondation n'est pas choisi au hasard. Situé à une douzaine de kilomètres à l'ouest du château de Laval, la toute nouvelle abbaye est un pion posé face au baron de Vitré et permet de renforcer le contrôle lavallois sur la forêt qui marque la frontière entre le Maine et la Bretagne. À l'échelle locale, le site est aux confins des paroisses de la Brulatte, du Genêt, de Loiron et d'Olivet, sur les bords de la rivière le Vicoin, formant ici quelques étangs. Isolement et accès à l'eau en font un endroit idéal pour installer une abbaye. Au Moyen-Âge, on accède à Clermont par une porterie, une imposante bâtisse toujours debout aujourd'hui, avec un passage pour piétons et un autre pour les charrettes. À quelques dizaines de mètres, l'abbaye s'organise classiquement autour d'un cloître, c'est-à-dire un jardin où les moines se recueillent, fermés sur quatre côtés. Côté nord, une impressionnante église de 65 mètres de long. Côté est, le bâtiment de travail et le dortoir des moines. Au sud, le réfectoire des moines et, côté ouest, le bâtiment des convers, ces personnes qui travaillent au service des moines. À la grande époque, l'abbaye compte jusqu'à une quarantaine de moines et une soixantaine de convers. Comme beaucoup d'établissements religieux, la période moderne est celle d'un lent déclin et, à la Révolution française, les derniers cinq moines quittent les lieux. L'abbaye et son domaine sont vendus comme bien national et les bâtiments utilisés par un exploitant agricole jusqu'en 1954, où le domaine de Clermont est racheté pour être préservé et restauré. Aujourd'hui, une association de bénévoles, l'Association des Amis de Clermont, continue à prendre soin du site, à le faire vivre et à en permettre la visite, notamment l'été. Alors n'hésitez pas, courez à Clermont. À la semaine prochaine, je vous parlerai de l'abbaye fille de Clermont, devenue au XIXe siècle la plus grosse usine du département.
Merci Christophe, avec un joli petit teasing pour la semaine prochaine. Restez donc à l'écoute de l'Estival du local, toujours à 7h30 et 12h15. Et puis vous le savez, tout l'été, on vous fait voyager à travers la Mayenne en zoomant sur un lieu ou une association tout au long de la semaine. C'est le feuilleton de l'Estival qui nous ramène aujourd'hui un siècle après Jésus-Christ, alors que Jublin est une capitale antique. Aujourd'hui, des fouilles sont entreprises sur place depuis 2010 avec une 9e campagne qui s'achève ce vendredi, dirigée par Anne Boquet, archéologue au département de la Mayenne depuis 25 ans. Elle travaille en priorité à Jublin et notamment sur le site des fouilles près du cimetière.
C'est une fouille qui se déroule au centre théorique de la ville antique. Donc c'est une grande ville qui fait à peu près 23 hectares avec des îlots urbains nord-sud, est-ouest et puis des monuments publics qui s'égrènent au fur et à mesure de la ville. Et la fouille se situe donc au cœur de cette ville, au milieu de la ville. Elle a été débutée en 2010 et elle était beaucoup plus vaste que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et elle était en fait tellement vaste et les vestiges étaient tellement importants, on a choisi de, volontairement d'en remblayer les trois quarts pour se concentrer essentiellement sur la petite zone que l'on voit ici, qui fait quand même 300 mètres carrés. Par rapport aux vestiges qui ont été découverts sur l'ensemble de la zone, c'est-à-dire les vestiges étaient très importants. Il y avait probablement un grand bâtiment public, un bâtiment résidentiel et des aménagements liés à une rue qu'on a du mal à comprendre. Donc en concertation avec les services du ministère de la Culture, on a choisi en fait de faire un espèce de transect est-ouest de l'ensemble d'un secteur avec des bâtiments et la zone réservée peut-être à la rue pour essayer de comprendre d'un seul tenant cette zone. Et volontairement, on fera l'impasse sur le reste. Ça va porter un éclairage, en tout cas sur la chronologie de l'occupation globale. Ça c'est sûr, on va voir à peu près à quelle date ça commence. Est-ce qu'il y a une occupation gauloise? Est-ce que les Romains s'installent tout début du 1er siècle, un peu après, etc. À quel moment les bâtiments peuvent évoluer, se transformer? Et à quel moment ce site est abandonné, en fait? Parce que on voit bien qu'aujourd'hui, Jublin n'est plus une capitale de cité. C'était une capitale de cité à l'époque antique, donc en gros, une préfecture. Donc un certain nombre de capitales de cité antiques sont devenues nos préfectures, Rennes, Le Mans, etc. Et Jublin a disparu. Ça fait partie de ce qu'on appelle des capitales de cité disparues. Et donc, on cherche à comprendre pourquoi ça a disparu, à quel moment ces bâtiments, ces ensembles monumentaux, parce que vous voyez qu'il y a quand même des élévations considérables de maçonnerie, ont été abandonnés, pourquoi les gens sont partis et où ils sont partis. Alors, le chantier ressemble en fait à deux. Il y a deux secteurs, deux, trois secteurs bien différents. Il y a un grand secteur qui est représenté par des maçonneries, des murs hein, vraiment très profondément fondés, qui sont des murs vraiment romains, qui définissent un bâtiment avec un grand espace et puis des partitions de pièces est-ouest, nord-sud. Ce bâtiment, aujourd'hui, qui est probablement construit au 1er siècle, après notre ère, on ne sait pas trop à quoi il correspond, parce qu'en fait, il a été détruit, enfin, et remblayé pour laisser place à un autre bâtiment. Et ce qu'on fouille aujourd'hui, ce sont les niveaux justement de remblaiement, c'est-à-dire les niveaux qui ont permis d'asseoir la nouvelle construction qui est au-dessus. Voilà, donc ça c'est une première partie. Il y a une seconde partie un peu plus à l'est, où on a des zones qui appartiennent probablement à des ateliers de forge. Donc on a probablement au 1er siècle également des forgerons qui travaillent dans la ville et qui transforment le minerai en métal, etc. Et puis on a toujours la troisième zone, qui est la zone présumée d'une des rues principales de la ville et qui est assez complexe à fouiller et à comprendre et sur laquelle vont se porter nos efforts. D'ailleurs, en ce moment, j'engage les auditeurs à aller visiter une exposition qu'il y a au musée de Jublin sur cette fouille. En fait, il y a eu une exposition donc, qui a déjà été faite, puisque la fouille était beaucoup plus grande donc, et qu'on a trouvé énormément de choses. Donc, il y a eu une expo un petit peu relais, quoi, qui donne à voir déjà les premiers résultats de cette fouille. Alors, il n'y a pas eu 12 ans de fouille tout à fait, puisqu'on a eu des années blanches, on va dire. C'est la 9e campagne. Mais oui, effectivement, au bout de 9 ans, on a quand même des résultats à présenter, des objets, des décors, par exemple les enduits peints. Enfin bon, on a quand même beaucoup de choses à raconter et à présenter aux gens.
L'exposition est visible tout l'été au musée de Jublin jusqu'au 3 octobre précisément. Et demain, Anne Boquet nous parlera du quotidien sur un chantier de fouilles archéologiques. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve demain pour une nouvelle émission L'Estival du Local, toujours à 7h30 et 12h15. On ne change pas les horaires. Restez à l'écoute de l'autre radio et très belle journée à vous.